comment on peut interpréter ça? C'est à l'homme de travailler, de trouver des solutions pour lui-même. Il a le principe. De base, il l'a dans le Coran. C'est à lui de chercher des solutions en se basant sur ce principe. Et cette chose-là, jusqu'à présent, on ne le fait pas.
Oui, mais je peux imaginer qu'avec les intégristes au pouvoir, ils peuvent à nouveau lire le Coran comme ils le veulent et décider que la femme peut être la responsable du chômage, la responsable des difficultés économiques et pour pouvoir résoudre ces problèmes-là en Algérie et donc trouver une interprétation du Coran qui les arrange dans ce sens-là. Est-ce que tu sens cette atmosphère qui pourrait effectivement exister maintenant en Algérie où ce serait tellement plus simple de rendre quelqu'un de responsable de toutes les difficultés de l'Algérie, et bien sûr, pourquoi pas les femmes, puisque c'est pas vraiment celles qui sont dans le cœur des intégristes.
C'est vrai qu'en Algérie, on reproche tous les maux de la société à la femme. Enfin, certaines personnes, bien sûr. J'ai perdu encore le fil.
Pourquoi reproche-t-on à la femme toutes ces choses-là? Pourquoi ces gens-là prennent-ils la femme? Quel prétexte ont-ils pour faire ça?
Enfin, ils trouvent comme excuse l'islam. Mais en fait, c'est pas juste, c'est pas vrai. C'est parce que c'est des gens qui veulent trouver une proie facile, une solution surtout facile, parce que pour arriver au développement d'une société et d'une économie, il faut quand même travailler, trouver des solutions sérieuses. Donc, c'est pas la chose à faire. Et je pense que la femme, comme je l'ai dit, fait partie de la société. Donc, si la femme est fautive, l'homme, il l'est autant. Donc, je trouve que cette accusation est injuste.
Les intégristes reprochent à la femme algérienne d'être immorale, entre autres dans sa façon de copier les femmes occidentales. Est-ce que pour toi et pour peut-être tes amis et les femmes algériennes que tu peux connaître, la vie que nous menons, nous ici en Occident, est une chose dont vous rêvez? Ou est-ce que vous rêvez d'autres choses que vous n'avez peut-être pas mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons?
Enfin, moi, personnellement, je cherche pas à copier la femme européenne. Je sais que je suis différente. J'ai ma propre personnalité, ma propre éducation. Je suis musulmane. Et je prends pas comme modèle la femme occidentale. Même si je m'habille en ce moment en occidental, mais ça ne veut pas dire que dans l'esprit je suis occidentale, pas du tout. J'ai ma propre personnalité. Et je crois pas que. Il faut pas que la femme algérienne se mette dans la tête que l'idéal, c'est de copier ou de vivre à l'européen ou à l'occidental. Je pense pas que c'est la solution. Au contraire, il faut se trouver une identité. Puisqu'on l'a, normalement, prendre conscience de notre identité, pas de la chercher, puisqu'elle existe. Et ça, il faut avoir sa propre personnalité.
Toi, au niveau des améliorations dont tu rêves dans ta situation de femme algérienne avec ton identité propre, en dehors de ces faits très précis dont tu nous as parlé tout à l'heure, le droit de vote, etc., qu'est-ce que tu penses que tu aimerais bien voir arriver pour les femmes algériennes, pour toi en Algérie?
Premièrement, accéder à l'instruction, c'est très important pour moi. Et prendre conscience de leur rôle dans la société. Et de jouer leur rôle pleinement, avec conscience, avec tout ce qui ça implique de responsabilité et de devoir, avant de penser aux privilèges ou
Donc, tu es pour un partage des responsabilités à tous les niveaux, qu'ils soient au niveau de la famille, mais aussi au niveau du travail, au niveau des responsabilités politiques, responsabilités économiques. Tu aimerais voir des femmes à tous ces échelons-là.
Oui, bien sûr, si elles sont capables. Bien sûr, pourquoi pas.
Et tu penses qu'elles le seront si elles ont accès à l'éducation?
Bien sûr, il y a des femmes qui sont directeurs d'entreprise, des femmes qui sont des directeurs généraux d'administration, des ingénieurs, des médecins, des pilotes, comme on l'a dit tout à l'heure.
Et ça te semble être fondamental que pour faire avancer l'Algérie, sortir de cette crise dans laquelle elle se trouve maintenant, les femmes soient partie prenante? Si elles n'agissent pas, tu penses que ça ira moins vite?
Oui, bien sûr, il faut s'imposer. On n'est pas mieux servi que par soi-même. Donc si on veut avoir nos droits et avoir notre place dans la société, il faut agir. Il faut agir et être raisonnable aussi. Il ne faut pas demander l'impossible. Il faut aller graduellement, petit à petit. Il ne faut pas brusquer les choses. Parce que quand on brusque les choses, on provoque l'extrémisme. Donc, il faut être plus subtil, faire des priorités des choses.
Mais les femmes algériennes ont quand même vu la nécessité de descendre en bloc et en force, par exemple dans la rue, le 8 mars, où elles sont descendues très nombreuses dans la rue, c'était Alger.
Oui, c'était à Alger, à l'occasion de la journée de la femme, journée mondiale de la femme. Toutes associations confondues, ils sont descendus dans la rue, ils ont manifesté pour leurs droits, leur situation économique. C'était des réclamations qui concernaient toute la société en fait, parce qu'ils ont manifesté contre la cherté de la vie, ils ont pris des couffins vides dans leurs mains. Je crois que.
Donc elles ont montré quand même qu'elles étaient capables de coups de force. Il fallait aussi, temps à autre, taper sur le poing sur la table et dire « on ne va pas se laisser faire ».
Oui, c'était un peu ça. Et aussi, les manifestations ces derniers mois en Algérie sont devenues une mode. Parce qu'avant, personne n'osait parler. On ne pouvait pas avoir de manifestations. C'était interdit au temps du parti unique. Et c'est comme un déchaînement. En moins d'un mois, on a eu presque une dizaine de manifestations de toutes sortes, de partis, d'associations de tout genre. Et il fallait que les femmes fassent partie de cette mouvance qui a apparu.
Voilà, c'était notre entretien avec Karima, jeune femme algérienne de passage à Genève et qui nous a transmis ce qu'elle ressent de la situation des femmes en Algérie aujourd'hui dans sa propre vie, par rapport à sa propre vie à elle. Alors en conclusion, je vous donnerai quand même aussi la conclusion de l'article écrit par Marité Saudemain dans Femmes Suisses, le dernier numéro, qui évoque aussi la situation des femmes en Algérie. Elle dit qu'entre les revendications démocratiques élémentaires, comme la loi électorale dont nous avons entendu parler par Karima, le droit au travail, les réformes juridiques, par exemple l'abrogation du code de la famille, et les revendications quotidiennes, comme l'eau, les logements, les prix, eh bien les associations de femmes algériennes s'épuisent. Il leur faudrait permettre aux femmes des couches populaires de passer des lamentations aux revendications. Mais comment? Comment réagir aux violences, à ce qui est vécu comme prioritaire, ce qui relève de l'espace démocratique? Et surtout, comment atteindre les couches moyennes où les femmes sont plus organisées? Et comment aller au-delà? Shafia, je vous rappelle, membre de l'Association des femmes de Constantine où l'intégrisme a une longue tradition, dit que les associations de femmes sont prises par le rythme des offensives du Front islamique du salut Et puis nous n'avons aucun moyen, ni locaux, ni subventions. Et les associations sont aujourd'hui toutes reconnues, mais elles n'ont pas de siège, et c'est le paradoxe. C'est ça la fausse démocratie. Alors elles sollicitent notre soutien. Nous proposons bien évidemment que les femmes qui écoutent Ondes Femmes Radio Zone 93.8 accordent leur soutien et fassent confiance à la profonde volonté de changement des femmes algériennes. Et pour cela, elles peuvent adresser leurs dons au CCP 25-20-541-6, adressé Marité Saudebin, mention, sigle ISRAR.
Laissez-moi vous raconter l'histoire qui est arrivée à la petite Fatima.
Dans cette émission consacrée aux femmes algériennes, nous écoutions juste maintenant les Djoudjoura. Et comme annoncé au début d'émission, nous avons contacté Béatrice Peter-Schmidt à Londres, que nous avons au bout du fil. Bonjour. Alors, nous avons contacté Béatrice Peter-Schmidt, que nous avons maintenant au bout du fil à Londres. Bonjour. C'est Londres, c'est loin. Alors attendez, on fait un petit effort parce qu'on ne s'entend pas. Béatrice, vous m'entendez? Non, elle ne m'entend toujours pas. Ça, c'est toujours les problèmes un peu du téléphone en direct, surtout si c'est si loin. On va refaire une petite tentative. Béatrice? Non, pas de nouvelles. Alors qu'on sait qu'elle est là. Tu m'entends, toi? Elle m'entend.
C'est comme ça quand on est petit.
Non, je t'entends pas.
Et puis le printemps est parti. Et les illusions aussi.
Là, Béatrice?
Silence.
Parle, Béatrice.
Parle, Béatrice.
Tu l'entends, toi?
Non.
Moi, je l'entends. Un cri de liberté. Les années de la
Je vais te remettre en direct, la tête en direct.
Voilà, donc cette fois le problème devrait être résolu. Béatrice, est-ce que vous m'entendez? Non, moi je ne vous entends toujours pas, c'est vraiment catastrophique.
Tu l'entends maintenant?
Voilà, c'est parfait, on s'entend et puis bon, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Alors Béatrice Peterschmidt, vous êtes réalisatrice, vous avez, vous tournez en fait en ce moment un documentaire concernant la vie des femmes algériennes. Vous avez été sur place déjà, faire une première partie du tournage, mais c'était avant les dernières élections. En fait, comment pour vous est né ce projet de documentaire? Ah, c'était, ça venait de là, mais en fait, bon, on savait déjà qu'avant la victoire dernière du Front islamiste, que les femmes avaient peu la parole, mais maintenant, les choses ont quand même changé. Est-ce que vous avez l'impression, bon, dans ce premier tournage où vous êtes allé, est-ce que ça a été facile de trouver des femmes qui avaient envie de parler, de dire ce qu'elles vivaient au quotidien? Alors là, ça y est, de nouveau catastrophe, nous sommes coupés. Alors je crois qu'on doit abandonner totalement, malheureusement, cette interview, que nous espérons que nous reprendrons une autre fois. Mais voilà, l'idée était là, Béatrice était là avec ses images, on en reparlera à un autre moment.
Elle était gaie en arrivant, c'est vrai. Elle avait 10 ans. Aujourd'hui, elle grandit. Pour être libre et fière, elle parle toujours le berbère. Elle lance des SOS, racisme, justice, détresse, amour et paix sur tous les continents. SOS répond, absent.
Donc, nous vous le disions, la musique que vous entendiez maintenant, c'était les Djurdjura. Et puis, tout au long de notre interview, vous avez entendu diverses musiques qui sont en sous toutes des petites merveilles, puisqu'il s'agit de musiques qui viennent d'Algérie ou de maghrébine en général. Et par exemple, il y avait des chansons qui étaient dédiées à la femme. Et oui, il y a des danses berbères qui sont consacrées à la femme. Vous avez entendu une chanson qui raconte la surveillance constante du mari auprès de sa femme, ou bien une chanson qui parlait du départ de la fille qui doit quitter son village pour rejoindre son fiancé. Alors Marianne, en dehors de cette interview que malheureusement techniquement nous n'avons pas réussi à réaliser, tu avais lu un livre qui évoquait la situation de la femme algérienne.
Voilà, oui, c'est bon, on peut pas peut-être le placer dans le contexte tout à fait actuel, mais ce que j'avais trouvé intéressant dans cet ouvrage, qui était un livre de Fethouma Touati, intitulé « Le printemps désespéré, vie d'Algérienne », ça a été publié à l'Harmattan. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il s'agissait de la vie de femmes algériennes de plusieurs générations. En fait, on se trouve dans une famille avec la grand-mère, les filles, les fils et les petites filles. Et on suit tout au long du livre le destin un peu de toutes ces femmes, ce qu'elles vivent au quotidien. Et c'est marrant parce qu'en écoutant le témoignage précédemment là, de cette Algérienne de passage à Genève, elle disait « oui, nos mères nous encouragent beaucoup ». Ben, cet ouvrage, c'est aussi ça, les grands-mères qui ont vécu des choses totalement différentes, qui n'ont pas eu l'éducation qu'ont la possibilité d'avoir maintenant certaines femmes, sont presque les plus virulentes à l'égard des hommes et les premières à dire à leur petite fille, écoute, il faut que tu te battes parce que t'as vu moi ce que j'ai enduré quand même. Il faut réagir, il faut y aller, t'as la possibilité d'étudier, vas-y. Il y a une immense solidarité des femmes que bon, moi j'ai ressenti à travers ce livre et je crois qu'on entend aussi souvent au travers des témoignages. Mais il semblerait que, en fait, cette solidarité, des fois, elle saute un peu les générations. Enfin, c'était le cas là.
Oui, c'est ce que racontait Karima tout à l'heure.
Voilà, exactement. Et ce qui était intéressant, c'était qu'entre Yasmina, Fatma, Malika et toutes les autres, il y avait des destins qui étaient différents concernant les femmes, si on peut dire, d'une trentaine, entre 30 et 40 ans maintenant. Car il y avait celle qui a été en France, et en France... ne s'est pas tout à fait adaptée, avait la nostalgie de l'Algérie, est revenue, mais n'a pas pu s'adapter car elle avait une vie trop libérée, elle avait trop l'habitude d'un autre rapport homme-femme aussi, ou même une autre vie de famille, qui est repartie mais pas satisfaite, qui vit bien à Paris, a une vie, un travail, un ami, mais qui a un vide. Il y a l'autre, Fatma, l'intellectuelle, qui a bien réussi, qui a fait ses études de médecine, qui a eu un amour très fort pendant ses études, mais qui, justement, car il y avait un mariage arrangé pour son amant, elle l'a perdu, elle s'en est jamais remise. Enfin, si, elle a mis du temps à s'en remettre. Et elle a décidé de se marier par un mariage un peu traditionnel, sans véritable sentiment pour pouvoir vivre, car elle ne tenait plus d'être une intellectuelle toute seule, alors que la vie de famille est quand même quelque chose de très important en Algérie. Enfin bref, on trouve un peu tous ces destins, le rôle de l'homme aussi, qui est évidemment très important, parfois violent, parfois compréhensif. Mais bon, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est de suivre les destins de ces femmes, de ressentir leurs difficultés, même avant les élections, ces dernières élections, difficultés dues à cette espèce d'ambiguïté entre les traditions musulmanes, l'évolution qu'il y a eu, cette attirance vers la France, pour certaines, qui est quand même quelque chose de très important. En fait, c'est à ce niveau-là que ce livre est intéressant, parce que c'est pas d'une écriture incroyable, mais ces témoignages, pour moi, m'ont amené une réalité importante. Donc, c'est un livre écrit par Fethouma Touati, Le printemps désespéré, vie d'Algérienne, écriture arabe chez l'Harmattan. Et bon, c'est une autre vision, peut-être, un peu en marge de ce qu'on peut vivre et entendre maintenant.
Mais Marianne, tu étais pendant longtemps, 6 mois, au Soudan, et tu m'as dit que tu as trouvé dans les journaux du coin ou ceux qui te parvenaient de nombreux articles concernant la femme algérienne. Et ils étaient écrits par des gens du coin ou c'était des journaux occidentaux que tu recevais qui évoquaient...
Ah non, c'est-à-dire que bon, moi je ne lis pas l'arabe, donc je lisais les journaux... écrit à Khartoum ou en Arabie Saoudite. Enfin, c'était dans les journaux soudanais, je sais pas, j'ai pas lu assez attentivement. En tout cas, ça m'a pas frappé, mais où ça m'a énormément frappé, c'était dans la Saudi Gazette. Du reste, je t'avais envoyé l'article, tu m'as dit que tu en avais parlé.
Peut-être nos auditrices se rappellent ce charmant petit texte où les hommes s'exprimaient sur les femmes occidentales.
Où nous étions que toutes des dévergondées, voilà. Des espèces de singes qui se déhanchaient, enfin, toutes des prostituées par la même occasion. Enfin, nous avions beaucoup d'activités très divertissantes du reste. Mais c'est vrai que c'est choquant. Et ça, c'est sûr que en Arabie Saoudite, c'est une autre histoire et les journaux de propagande, spécialement dirigés pour les Occidentaux, au niveau des femmes, c'est quelque chose de pas du tout évident et c'est une réalité. Mais maintenant, je crois que quand on tient ce genre de discours, on parle, ce qui me choque un peu, c'est qu'on dit toujours on mélange islam et front islamiste. Et je suis de loin pas une spécialiste, mais j'ai rencontré beaucoup de musulmans et de musulmanes. Bon, bien sûr, beaucoup plus de musulmans parce que c'est beaucoup plus... Enfin, ça dépend dans quel milieu on est, mais il se trouvait que je travaillais, donc j'étais confrontée plus facilement à des hommes. Il y a quand même une petite nuance et je crois qu'en fait il y a des traditions musulmanes qui sont très ancrées, où le patriarcat est quelque chose d'incroyable, mais le front islamiste, c'est encore une autre histoire. Et alors, maintenant, c'est plutôt ça le problème, c'est plutôt la montée du front islamiste que l'islam. Enfin, c'est intimement lié, mais je crois que c'est aussi très délicat parce que je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui doivent se sentir complètement agressés par les discours qu'on tient. Alors que quand même, il y a plein de nuances. C'est comme chez nous, on peut être religieux et très croyant et puis pas suivre les discours aberrants du pape.
Mais pourquoi dans ces journaux parlait-on de la femme algérienne en particulier ? Elle représente une attitude différente par rapport au monde arabe ? Non, tu m'as dit que tu avais trouvé des articles sur les femmes algériennes. Alors, pourquoi parlait-on de cette femme-là en particulier ?
Ah non, mais ça, c'était autre chose, en fait. Ça, c'était dans les journaux occidentaux.
Ah, d'accord.
Oui. Ouais. ça, c'était, on en parlait beaucoup.
D'accord. Bon, eh bien, on espère que peut-être Béatrice de passage à Genève, depuis Londres, pourra venir nous parler en direct de son film et qu'on aura quand même, une fois, on saura ce que cela représente, qu'une occidentale réalise un film sur les femmes algériennes et comment cela... que dire ?
Oui, enfin,
je trouve plus la fin de ma phrase. Excusez-moi. Voilà.
Maintenant, une petite série de musique, il les fait chanter. Vous allez avoir plusieurs chansons qui ont une particularité. Elles ont toutes été composées par Gainsbourg. Mais là, tout de suite, une chanson très ancienne, Sous le soleil exactement, et c'est Anna Karina qui chante.
Du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement. Juste en dessous. District. C'était tout au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. Était-ce sur un archipel, sous le sol. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant si c'était rêve. Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Et passer des chansons écrites par Gainsbourg et pas passer Jane Birkin quand même, ce serait un crime. Elle était tellement émouvante, du reste, pour ceux qui ont pu la voir à la télévision dernièrement, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.
Et c'est sur ces belles paroles que nous finirons Remue Ménage aujourd'hui. Mmh. Alors Marianne, à tout bientôt j'espère quand même.
Ben, on verra.
Pour un autre Remue Ménage avec une invitée très spéciale, mais Jane Birkin.
Aux yeux.